Bonjour à chacun. Quelques questions toutes simples pour commencer. Est-ce qu'il vous arrive de prier ? Ça va, jusque-là, ça va. Est-ce qu'il vous arrive de demander à Dieu des choses très précises ? Est-ce qu'il arrive que vous soyez exaucé ? Est-ce qu'alors vous prenez le temps de revenir à Dieu pour le remercier ? Bien des fois, nous prions, bien des fois, nous demandons quelque chose à Dieu, et bien des fois, dans sa grande miséricorde, Dieu nous exauce. Dieu répond à notre prière. Malheureusement, parfois aussi vite exaucé et aussi vite oublié. Il peut arriver parfois que nous oublions de remercier Dieu. Alors, dans notre ingratitude, nous omettons de reconnaître, comme le dit Jacques, que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il est facile de recevoir de Dieu, d'être au bénéfice de sa bonté, mais il est aussi facile d'oublier de le remercier. L'ingratitude tapie au fond de notre cœur est toujours prête à saisir chaque occasion qui s'offre à elle de se manifester. Et nous devons veiller, veiller et veiller encore à ce qu'elle ne caractérise pas notre relation à Dieu. La Bible nous offre une histoire où se mêlent gratitude et ingratitude. C'est le récit bien connu de la guérison des 10 lépreux. Et Luc, dans son évangile, est le seul à nous raconter cette histoire. Mais qu'allons-nous bien pouvoir dire de ce texte qui n'a pas déjà été dit et entendu maintes fois ? Je nous invite à tout faire ce matin pour nous mettre devant ce texte comme si c'était la première fois que nous l'entendions. Et surtout en demandant à Dieu de parler à notre cœur. Nous allons lire le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 17. Je lis les versets 11 à 19 dans la traduction de la Bible dite à la Colombe. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Notre texte commence en précisant que Jésus marche en direction de Jérusalem. Et pour cela, il passe par la Samarie et la Galilée. Et c'est à l'entrée d'un des villages qu'il doit traverser le texte ne précise pas lequel, ça n'a pas d'importance, que 10 lépreux viennent à sa rencontre. Habitait-il dans les environs ? Ou bien venait-il de plus loin, sachant que Jésus devait passer par là ? Le texte ne précise rien de tout ça. Ce que le texte dit au verset 12, c'est que comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Notons qu'ils savent qui est Jésus. Leurs paroles en témoignent. Au verset 13, nous lisons « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils viennent à la rencontre de Jésus, à la rencontre du Maître, mais ils se tiennent néanmoins à distance. Pourquoi ? Tout simplement parce que telle était l'instruction de la loi. Nous lisons dans le livre du Lévitique, chapitre 13, versets 45 et 46, « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp, hors de la ville ou du village. » À la lumière de cette instruction de la loi, nous ne sommes donc pas surpris que la rencontre avec ces 10 lépreux et Jésus se passe à l'extérieur du village, alors que Jésus s'apprête à y entrer. À l'époque, il n'y avait pas de route goudronnée et encore moins de voiture. Jésus faisait, c'est une évidence, tous ses déplacements à pied sur les chemins rocailleux et poussiéreux d'Israël, souvent par une forte chaleur. Il n'est certainement pas faux de penser que ce village correspondait à une étape dans la route du chemin, dans la route du Seigneur vers Jérusalem. Après de longues heures de marche, enfin le repos, enfin un bon bain de pied, enfin un bon repas, enfin de quoi se désaltérer. Jésus s'apprête à entrer dans le village avec peut-être la perspective de ces choses ou d'une ou l'autre de ces choses quand il est interpellé par ces 10 lépreux. Pourtant, comme à son habitude, Jésus va se laisser déranger. Jésus va prendre le temps de répondre à leurs besoins. Alors bien sûr, c'est Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus. Mais cette disponibilité de Jésus à toute épreuve doit quand même nous interpeller et nous encourager, je l'espère, à régulièrement nous décentrer de nous-mêmes pour nous rendre disponibles à d'autres. On devine dans le texte que les lépreux ont sans doute d'abord appelé Jésus sans qu'il les entende. Il y a la distance qui les sépare. Et puis il y a la foule, très certainement, qui fait du bruit. Jésus ne les voit pas. Jésus ne les entend pas. C'est ce que le texte nous fait comprendre, car les lépreux sont obligés d'élever la voix pour se faire entendre. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus regarde alors dans leur direction, dans la direction des appels, et c'est là qu'il les voit. Le texte ne le dit pas explicitement, mais on le devine entre les lignes. Jésus est touché par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Il est touché par la souffrance de ces hommes, peut-être aussi de ces femmes. Le texte ne précise rien. Touché par leur exclusion, touché par leur supplication, touché par leur attente de sa compassion. Que demande-t-il à Jésus ? Il demande sa pitié, il demande sa compassion. Notons bien qu'il ne demande pas directement ou explicitement la guérison. Mais quoi d'autre que la guérison serait pour eux le signe de la miséricorde de Dieu, le signe de sa bonté, le signe de sa compassion ? Pour le juif de l'époque, la lèpre était le signe de la défaveur de Dieu. La lèpre était perçue comme une punition infligée par Dieu pour un péché donné. Alors un lépreux demandant la pitié, la compassion de Jésus demandait en fait la guérison, demandait à retrouver la faveur de Dieu. Comment Jésus réagit-il ? En réalité, son attitude dans le texte a de quoi nous surprendre. Elle a de quoi nous surprendre parce que Luc, dans son évangile, a déjà rapporté la guérison d'un autre lépreux dans des circonstances bien différentes. Je lis au chapitre 5, les versets 12 à 14. Jésus était dans une des villes et voici qu'un homme couvert de la lèpre le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta, puis il lui recommanda de n'en parler à personne, mais dit-il : « Va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Dans cet autre récit, Jésus a touché le lépreux pour le guérir. Mais avec les 10 lépreux de notre texte, Jésus garde les distances, ses distances. Il ne les touche pas. Il se contente de leur dire d'aller se montrer au sacrificateur. Jésus les envoie se montrer au sacrificateur parce que c'était la procédure normale pour toute personne guérie de la lèpre, comme nous le lisons dans Lévitique 14, 1 à 4, et puis comme nous venons de le voir dans le texte de l'autre récit de la guérison dans Luc 5. Lévitique 14, versets 1 à 4, l'Éternel parla à Moïse et dit : « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. » À cette époque, le prêtre, le sacrificateur, agissait comme une espèce d'inspecteur de la santé, qui authentifiait que la guérison avait bien eu lieu. Seulement, quand Jésus envoie ici, dans notre texte, les 10 lépreux se montrer au sacrificateur, ils sont encore impurs. Ils sont encore atteints par la lèpre. La guérison n'a pas encore eu lieu, et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Sans doute que Jésus a voulu mettre leur foi à l'épreuve. Alors je ne parle pas ici de salut, de foi qui sauve, je parle ici simplement du fait de croire. Les 10 lépreux ont cru la parole ou aux paroles de Jésus et ils sont allés vers les sacrificateurs. À l'évidence, il y a eu une démarche de foi. Mais pour 9 d'entre eux, c'est une démarche qui s'est arrêtée en chemin. Parce qu'un seul est revenu à Jésus. Tous ont été guéris, mais un seul est revenu. Un seul a été sauvé, précise le texte. Nous y reviendrons dans un instant. Jésus met donc leur foi à l'épreuve. Ils doivent aller se montrer au sacrificateur alors qu'ils ne sont pas guéris. Ils doivent agir en faisant confiance à Jésus sans que rien de tangible n'ait eu lieu auquel il pourrait se raccrocher. Un peu comme Naaman dans l'Ancien Testament, qui, à la parole d'Élisée, devait aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. En les envoyant ainsi vers les prêtres, Jésus leur demande de croire ce qui n'est pas encore et d'agir comme s'ils le possédaient déjà. En fait, nous avons là l'essence même de la foi. Faire confiance sans voir. Croire que l'on possède déjà ce qui n'est pas encore là et agir en conséquence. Les 10 lépreux sont venus à Jésus avec une certaine foi. C'est une évidence. Et Jésus leur demande de la mettre en action. D'une certaine manière, de vivre par leur foi, d'agir en lui faisant confiance. Qui peut dire ce que Dieu va faire ou peut faire ou fera s'ils agissent ainsi? Qui peut dire ce que Dieu fera s'ils agissent en donnant foi aux paroles de Jésus? C'est sur le chemin de l'obéissance à la parole de Jésus que le miracle a lieu. Je relis le verset 14. En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. C'est en chemin qu'ils ont été purifiés. C'est en obéissant à Jésus qu'ils ont été guéris. Notons que c'est souvent ainsi que les choses se passent dans notre vie. C'est souvent sur le chemin de l'obéissance que Dieu répond à nos prières, que Dieu répond à nos requêtes. Cependant, rappelons ici que rien n'est jamais automatique. Et que l'obéissance ou la foi ne sont jamais des garanties infaillibles à l'exaucement de nos prières. Rappelons que l'obéissance et la foi ne sont jamais non plus des moyens de pression sur Dieu qui l'obligerait à nous exaucer. Si certains le pensent et l'affirment, il faut redire ici que l'Écriture n'enseigne nulle part ce côté systématique et automatique. Je peux marcher par la foi et ne pas être exaucé. Je peux marcher par la foi et ne pas être guéri. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est d'abord et toujours la volonté de Dieu qui est première et qui prime sur la nôtre, même si Dieu se plaît aussi à nous exaucer selon sa volonté. Pourtant, même quand Dieu nous exauce dans notre obéissance, ce n'est jamais, jamais parce que nous le méritons. Parce que nous avons été de bons petits soldats qui ont tout bien fait dans le bon ordre. Parce que nous avons suffisamment de foi, non. En fait, tout ce que nous recevons de Dieu est toujours et uniquement dû à sa grâce, et à sa grâce seule. C'est pourquoi il peut arriver que Dieu, dans sa grâce, nous exauce alors même que nous sommes loin de lui. Que Dieu, dans sa grâce, nous exauce alors même que nous sommes révoltés contre lui, peut-être. Alors même que nous sommes tièdes et que nous marchons, peut-être sommes-nous arrêtés sur le chemin, sur le bas-côté. Et Dieu nous exauce alors même que nous n'y croyons pas nous-mêmes. Alors je ne rappelle pas cette réalité pour nous exhorter au laxisme spirituel, mais pour souligner avec force l'immensité de la grâce de Dieu qui toujours nous soutient, toujours nous relève, nous délivre, nous exauce, parfois même dans nos déserts, parfois même dans le ventre des poissons de notre désobéissance. Que serions-nous si cela n'était pas le cas ? Que serions-nous si Dieu, dans sa grâce, ne s'était pas engagé à nous mener à bon port, malgré nous parfois ? Nous qui sommes et resterons pécheurs jusqu'au bout, jusqu'au jour glorieux où nous deviendrons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais avant ce jour glorieux, il y a beaucoup de hauts et de bas dans notre vie. Mais la grâce de Dieu reste la même. Les 10 lépreux sont donc en route parce qu'ils ont cru la parole de Jésus. Et là, sur leur chemin, Dieu les visite. Dieu honore leur foi. Dieu les purifie de leur lèpre. La manière dont les choses se passent ne laisse aucun doute sur l'origine du miracle. Ils doivent leur guérison à Dieu. C'est une évidence. Ils doivent leur guérison à Jésus. Sans doute qu'ils ont tous compris cela. Qu'il n'y avait aucune ambiguïté à ce sujet. Et pourtant, un seul va revenir pour remercier Jésus, pour glorifier Dieu. Oui, un seul revient. Mais n'ont-ils pas tous été guéris ? N'avaient-ils pas tous le même motif de gratitude ? Ne savaient-ils pas tous à qui ils devaient cette guérison ? Leur guérison ? La réponse est bien sûr oui à toutes ces questions, et pourtant, un seul revient. 1 sur 10, c'est pas beaucoup. Notre homme, dit le texte, revient sur ses pas et il glorifie Dieu à haute voix. Nous lisons au verset 15, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. » Alors on l'imagine sur le chemin du retour, sautant de joie, louant Dieu, bénissant Dieu pour ce qu'il vient de faire dans sa vie. Et les 9 autres, où sont-ils ? Que font-ils ? Le texte n'en parle plus. Sans doute qu'ils ont été eux aussi dans la joie, dans l'immense joie de voir leur guérison. Sans doute ont-ils aussi loué Dieu, mais ils ne sont pas revenus vers Jésus. Celui qui revient vers Jésus se jette littéralement à ses pieds, lisons-nous au verset 16. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus. Notons ici que toutes les barrières du départ ont sauté. Toutes les distances, toutes les séparations du début du récit n'ont plus lieu d'être. La lèpre est une image très appropriée dans l'Écriture, très parlante du péché de l'homme qui le sépare de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Romains que tous ont péché, tous les hommes, et sont séparés de la gloire de Dieu. C'est le constat qu'il fait. Le péché de l'homme le sépare de Dieu. Mais Jésus est venu pour combler ce gouffre. Par son obéissance parfaite, par le don de sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et ainsi, par la foi et la repentance, je peux recevoir le pardon de Dieu, je peux être réconcilié avec Dieu et je peux m'approcher de Dieu. Lépreux, notre homme se tenait à distance. Guéri, purifié, il se jette aux pieds de Jésus. Oui, les barrières, les distances du départ ne sont plus. Et c'est ici que Luc injecte un détail significatif dans sa narration. Il nous précise l'identité de celui qui est revenu. C'est un Samaritain, un étranger. Sans doute faut-il comprendre ici que les 9 autres étaient juifs. On connaît l'animosité qu'il y avait entre juifs et samaritains. Et ainsi, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que le samaritain soit le dernier à remercier un juif. Mais la gratitude et l'ingratitude à Dieu ne sont pas toujours là où on les imagine. Notons bien ici que la gratitude et l'ingratitude à Dieu n'ont rien à voir avec la race, l'origine ethnique ou que sais-je, ni même avec la quantité de bénédictions qu'on a reçues de Dieu. En fait, la gratitude et l'ingratitude à Dieu, c'est avant tout une question de cœur. Il faut que le cœur soit touché. Que le cœur soit transformé. Il faut que je laisse Dieu toucher mon cœur. Il faut que je m'ouvre à lui. Comprenons par les paroles de Jésus que la bonne attitude était de revenir à lui. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Non, les 9 autres ne sont pas revenus remercier Dieu et rendre gloire à Dieu. À l'évidence, ils se sont contentés d'aller trouver les sacrificateurs. Et ils sont à l'image de ceux qui restent sous le joug de la loi, qui vivent dans le légalisme, qui restent dans une relation à Dieu qui n'est faite que d'obligations et de devoirs. Souvenons-nous ici que le but de la loi, c'était de nous amener à Christ. La loi n'a jamais été donnée comme une fin en soi, mais pour nous conduire à Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit très clairement dans son épître aux Galates. Chapitre 3, verset 24, « Ainsi la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi et non pas par la loi. » Et le Samaritain a compris cela. Il a compris que l'essentiel, c'était Jésus. Et ce Samaritain préfigure un changement essentiel et radical apporté par Jésus. C'est plus à Jérusalem, au temple, avec les sacrificateurs que ça se passe. Ni même en Samarie, que l'on adore Dieu, mais c'est en Jésus. Vous connaissez ce verset dans Jean 4 avec la Samaritaine. Notre histoire est à la fois belle et triste. Belle parce que tous ont été guéris, c'est merveilleux. Tous. 10 sur 10, on ne peut pas faire mieux. Belle parce qu'elle dit la compassion de Dieu pour tous les hommes. Tous. Qu'ils soient dans la reconnaissance ou pas, pour tous les hommes. Belle parce que le Samaritain est revenu, le plus improbable. Je ne vais pas m'hasarder à des comparaisons avec la géopolitique aujourd'hui, mais on pourrait en trouver quelques-unes qui nous feraient bien comprendre l'improbabilité de ce texte, de ce Samaritain qui revient vers un Juif. Belle car le gouffre entre le pécheur et Dieu peut à l'évidence être comblé. Et le pécheur par Jésus peut s'approcher de Dieu. Et puis belle parce que celui qui est revenu, nous dit le texte, a été sauvé. Belle mais triste aussi. Triste parce que si tous ont été guéris, un seul est revenu. Triste parce que si tous ont été au bénéfice de la compassion de Jésus, un seul est revenu pour le remercier. Triste parce que les ingrats sont beaucoup plus nombreux. Triste parce que 9 se sont arrêtés en chemin et que un seul a été jusqu'au bout. Un seul a été sauvé. Triste encore personnellement, parce que cette histoire fait miroir à ma vie, où il m'arrive, et peut-être à vous aussi, d'être trop souvent dans le groupe des 9. Combien de fois est-ce que je demande quelque chose à Dieu en passant à la requête suivante comme on enfile des perles, sans y revenir, sans même me soucier de son exaucement ou pas, surtout quand c'est une requête pour les autres, sans le remercier pour tel ou tel exaucement, manifestant que je prends la grâce de Dieu comme un dû. Combien de fois agissons-nous ainsi? Combien de fois ne sommes-nous pas? Non, ça ne marche pas, ça. Ne sommes-nous pas le Samaritain? C'est ça, hein? Une chose est sûre, à chaque fois que c'est le cas, c'est une fois de trop. À chaque fois que nous ne ressemblons pas à ce Samaritain, c'est une fois de trop. Une chose est sûre, la gratitude à Dieu ne va pas toujours de soi dans notre vie, et c'est pourquoi nous devons discipliner notre cœur à la reconnaissance. Si notre texte nous interpelle sur le sujet de la gratitude et de l'ingratitude, il le fait en réalité surtout dans un autre domaine. Si l'ingratitude du groupe des 9 est triste et condamnable, ce n'est cependant pas le plus tragique dans notre texte. Le plus tragique, j'y ai déjà fait allusion, c'est que les 9 qui ne sont pas revenus se sont en réalité arrêtés en chemin. C'est ça qui est tragique, c'est qu'ils ne sont pas revenus à Jésus. Ils ont bien commencé, mais ils se sont arrêtés en chemin. En fait, il nous offre une triste illustration de toutes celles et ceux qui s'approchent de Jésus pour la première fois en lui demandant quelque chose et qui, après l'avoir reçu, continuent leur chemin, mais sans Jésus. Combien de personnes ont goûté que le Seigneur est bon pour ensuite lui tourner le dos? Combien de personnes se sont approchées de Dieu avec un besoin spécifique que Dieu a exaucé sans qu'il revienne à lui par la suite? Combien de personnes ont été au bénéfice des prières d'autres chrétiens qu'ils avaient peut-être même sollicités pour ensuite continuer sans Dieu? Combien de personnes ont accueilli la parole du Seigneur avec joie à un moment donné pour ensuite ne pas persévérer? Combien de personnes ont été éclairées par la lumière du Christ pour ensuite retourner dans les ténèbres d'une vie sans lui? Combien de personnes ne sont pas allées jusqu'au bout de leur approche de Jésus? C'est ça qui est triste et tragique dans notre texte. C'est de loin le plus triste et le plus tragique. C'est une réalité qui est là devant nos yeux, de toutes ces personnes qui s'approchent de Dieu avec un besoin spécifique, mais qui ne reviendront pas à lui après que Dieu les ait bénis, que Dieu ait répondu à leurs prières. Oui, notre récit nous parle aussi de tous ceux qui ne s'approchent de Dieu que par intérêt à un moment ou à un autre, que quand ils ont besoin de quelque chose, d'un exaucement. En fait, ils s'approchent suffisamment près de Jésus pour être au bénéfice de ses bienfaits, mais tout en gardant quand même une certaine distance. Mais il y a encore plus triste et plus tragique, même si c'est lié à tout ce que je viens de dire, parce que notre texte souligne qu'en ne revenant pas à Jésus, qu'en s'éloignant de Jésus, les 9 lépreux qui ont été guéris par lui se sont aussi éloignés de leur salut, du salut qui est en Jésus seul, En fait, le Samaritain a été guéri, mais pas seulement, il a été sauvé, dit notre texte. Alors le texte ne dit pas tout ce qui s'est passé entre lui et Jésus. Mais c'est bien ce que dit notre texte. À la fin du récit, je reprends au verset 17, Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés, mais les 9 autres où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Il a été guéri, mais il a surtout été sauvé. C'est ça le plus important dans notre texte. Par la foi, ce Samaritain est entré dans le royaume de Dieu. Un royaume qui était à la portée des 9 autres, mais ils s'en sont finalement éloignés. Le salut était là, si près, il pouvait presque le toucher du doigt. Mais finalement, la seule chose qui comptait pour ces 9-là, c'était l'instant présent, c'était la guérison physique, sans aucune considération pour les choses de Dieu, pour les choses éternelles. Dans leurs besoins, ils se sont approchés pour s'éloigner ensuite, après avoir été exaucés, et surtout sans la vie éternelle. Et c'est vraiment ça le plus tragique. Chers amis, tous les dons de Dieu ont pour but ultime de nous amener à celui qui est le don suprême de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Ne soyons pas comme ces 9 lépreux qui ont saisi le don, mais qui ont ignoré le donateur. Peut-être ce matin, vous êtes-vous retrouvés dans un des cas de figure que j'ai évoqués. Peut-être faites-vous partie de ceux qui, à un moment donné, se sont approchés de Dieu pour recevoir quelque chose et pour ensuite lui tourner le dos. C'est triste, mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour revenir sur vos pas, pour revenir à Jésus. Aujourd'hui, comme hier, Dieu nous attend, Dieu vous attend. Et il est prêt à vous offrir le salut par Jésus son Fils. Pourquoi ne pas le saisir ce matin? Et pour nous qui avons déjà saisi la grâce de Dieu, n'oublions pas de constamment revenir au donateur. N'oublions pas de constamment exercer notre cœur à la reconnaissance pour ses innombrables bienfaits, bien sûr, pour ses bontés, qui se renouvelle chaque matin pour le salut si nous sommes en Jésus-Christ, par la foi, pour la vie éternelle, pour le don de la foi, bien sûr, pour la présence de Dieu dans notre vie par son esprit, pour le pardon de nos péchés, pour son secours, pour sa paix, pour son amour dont rien ne nous séparera, pour sa grâce infinie par laquelle il nous mènera jusqu'à au bon port. Aujourd'hui, maintenant et chaque jour est le moment de remercier Dieu, le moment de revenir à Jésus, le moment de se repentir de son ingratitude, le moment de saisir son salut par la foi. Dieu ne rejette jamais celle ou celui qui s'approche de lui, car il est un Dieu de grâce. Et aujourd'hui est encore un jour de grâce. Amen.